La Seine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour André Duny. Bon, on m'a dit que j'étais votre fidèle chroniqueur. Hein. Là, j'espère bien que Radio Couleur FM, hein, qui est en Orisère, sur Lyon, bientôt dans le coin de Pont-Beauvoisin, va bientôt nous relayer, parce que, bon, c'est en bonne voie, et j'en suis très très content. Donc, quatrième radio, ça me permettra de dire des choses, puisque, bon, on a fait une interview de madame les deux maires des Avenières, Tulin. Et ben, comme ça, ça passera direct sur le nord de l'Isère et l'Isère. Et voilà, donc ça me met quand même un peu la pression pour être de plus en plus à la hauteur, n'est-ce pas ? Parce que je salue aussi les amis du Royan, enfin des territoires que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'ai failli m'y installer, mais j'avais trouvé cette maison du côté des versants nord de la Chartreuse, au bord du lac d'Aigbelette, le lac de toutes mes amours, que j'ai bien sûr renoncé au Royan. Bon, et ben, et puis le Grésivaudan, la grande vallée, où bientôt, j'espère que non, le TGV va pas enjamber avec un aqueduc de béton de plusieurs kilomètres de Lyon, un boucan infernal au-dessus des vignes. J'espère que ça va pas se faire, mais il faut quand même qu'on se bouge le train. Vous avez écouté l'émission, hein, qu'on peut mettre 800 000 camions sur les rails existants, hein, depuis Ambérieu, où on peut faire les transferts des remorques de camions, hein, des conteneurs, c'est des conteneurs, hein, de camions, on peut les mettre sur le train. Il y a plusieurs systèmes pour passer dans le tunnel, dans un système extrêmement bas. Il y a le Kangoo, enfin bref, voilà, on va me dire que je fais encore des digressions. J'ai reçu pas mal d'appels, je vais essayer de répondre à vos questions aujourd'hui. Et donc là, je salue donc les radios qui veulent bien m'avoir comme chroniqueur en podcast, hein, c'est super sympa. Et je salue les jeunes auditeurs de Chambéry qui sont venus me voir, c'est super sympa. Et j'espère vous être utile. Si vous me le faites savoir, c'est encore plus sympa, comme les quelques-uns qui m'ont posé 2-3 questions, hein, pas à monsieur le professeur, on s'en fout, hein, mais à quelqu'un qui essaye de se renseigner, qui lit 4 heures par jour à peu près, hein, et qui lit d'ailleurs de la presse qui s'achète pour ne pas être vendu. C'est vrai, j'ai peut-être les moyens, mais je mets plusieurs centaines d'euros à des abonnements et des livres. Hein. Quand je vais aux librairies dont je vous ai parlé de Chambéry, c'est 100 euros à chaque coup. Voilà, ben on met son argent où on veut. Hein. Moi, je vais pas tellement au terrain, je vais pas tellement au resto, je vais pas tellement dans les concerts et les récitals. Et ben voilà, je les mets dans la lecture. Et ça me permet d'essayer de vous dire des choses qui tiennent un peu la route, quoi. Hein. Et puis je suis effaré de voir que, voilà, on va bientôt rendre la vaccination obligatoire pour les personnels hospitaliers. J'ai donc appelé à la manifestation, j'ai pas pu y aller. Un rendez-vous familial absolument décisif. Et ben, il y a quand même eu entre 1000 et 2000 personnes à Chambéry. Ce ne sont pas des anti-vax, hein. Ce sont des gens qui ont été vaccinés quand c'est raisonnable, comme par exemple, si vous jardinez, d'avoir un tétanos, hein, un anti-tétanos, il vaut mieux ça, ou un anti-polio, que voilà. Bon, mais quand même, c'est inimaginable qu'au pays des droits de l'homme, on n'ait pas eu de blouse, pas eu de gants, pas eu de masque, pas eu de lunettes, de surblouse, hein, à l'hôpital pendant des mois, d'incurie totale de notre gouvernement, hein, qui avait détruit 1 milliard de stocks de masques soi-disant dépassés et qui ne les a même pas remplacés, ce qui fait qu'on a été fort dépourvu quand monsieur virus Covid-19 fut venu. Et c'est les mêmes qui vous disent, bande de salopards, vous ne vous vaccinez pas, vous allez nous pourrir vous allez foutre le chikungunya à nos malades. Écoutez, je suis désolé, mais ceux qui ne se vaccinent pas ne sont pas des gens à qui il faut obliger à vacciner, dans la mesure où leur corps leur appartient, et qu'un des droits de l'homme, c'est quand même que l'on respecte l'intégrité corporelle, et que ça ne devienne pas discriminatoire, au point que si vous n'êtes pas vacciné, ben on vous licencie. on voudrait licencier le personnel hospitalier qu'on a traité moins que rien, qui a manifesté, qui a eu des cacahuètes, hein, on peut le dire, hein, là, 153 euros de prime, il faut pas se ficher la mode. Voilà, que les hôpitaux manquent encore de pas mal de choses. Ouais, je sais, hein, si on était en Ouganda avec Amin Idi Dada, on aurait beaucoup moins. Comparons ce qui est comparable, on est quand même hein, un pays ultra riche, et d'ailleurs on est riche si on regarde bien l'histoire, parce qu'on a pillé les autres pays, hein, et si on n'est pas pillé l'Afrique, le Vietnam et tutti quanti, on n'aurait pas rapatrié autant de matières premières, autant de pognon sur le dos du Burno ou sur le dos du Viet ou sur le dos du Noir. Hein. On a bien piqué les richesses qui nous ont fait très riches. Mais maintenant, les temps sont venus peut-être d'un certain déclin et il va falloir y réfléchir. Donc, je ne suis pas du tout d'accord qu'on rende les vaccins obligatoires. On n'est pas des idiots et les personnels hospitaliers ne sont pas des idiots. Ils veulent voir si ces vaccins n'ont pas de conséquences. Hein. On n'est pas anti-vax, mais on veut voir. Voilà, moi j'avais fait vacciner mon fils contre l'hépatite D. Quand j'ai vu affoler les effets secondaires de l'hépatite B, il y a en 1992-13, enfin, à quelle époque il entrait au collège, donc 96, je me suis dit, mais t'as fait une belle connerie de le vacciner hépatite D. Hein. Plus personne ne se vaccine hépatite D. Et il y a peut-être, comme je l'ai expliqué dans d'autres émissions, et comme je vais le faire dans une émission, d'autres manières d'arrêter les virus. Certainement que la vaccination en est un, mais regardons un petit peu ce qui se passe avec AstraZeneca, hein, plus personne ne veut se faire vacciner, ben, il y a quand même des effets secondaires. Ah oui, d'accord, mais c'est le bénéfice-risque. Ah oui, d'accord, ok, c'est le bénéfice-risque. Pareil, hein, pour les femmes qui voulaient maigrir avec le Mediator, c'était bien, hein, le Mediator, on maigrissait, oui. Mais les laboratoires Servier, ils ont fait 3000 morts, enfin bon. Ça dépend les chiffres, hein, 2500 femmes qui sont mortes de valvulopathie cardiaque. Voilà, elles ont fait confiance à un médicament qui, soi-disant, traitait le diabète, en fait, qui était un coupe-faim. Et ce coupe-faim s'est avéré mortel au niveau de la destruction des valves cardiaques. On fait confiance à Big Pharma, mais Big Pharma, il fait du pognon, la Talinobide. Il y a, bon, quand je ferai l'émission, je vous montrerai 27 scandales de laboratoire de ces dernières années où on a fait confiance à des médicaments, ils ont tué des tas de gens. Donc, le pognon, le profit, voilà, on prend pas le temps qu'il faut pour... Moi, je voudrais bien voir les effets à moyen terme et puis voir arriver des vaccins peut-être de meilleure qualité. Et puis surtout, voilà, c'est un droit de l'homme d'avoir son intégrité personnelle garantie sans licenciement. Et c'est encore un bon prétexte pour détricoter le code du travail. Hein, vous n'êtes pas vacciné, on vous licencie. C'est discriminatoire, disent les avocats. Ça mérite le prud'homme et la réembauche. J'espère qu'ils vont pas aller jusque-là parce que ça va peut-être leur coûter cher. Hein. Voilà. Il s'agit de préserver la santé des salariés. Ceux qui ne se vaccinent pas sont ceux qui prennent le maximum de précautions. Enfin, franchement, si vous faites attention, si vous ne faites pas comme moi, j'ai été invité à un anniversaire, mais c'est hallucinant, quoi. 15-20 personnes dans une petite pièce, le professeur en face de moi qui prend la confiture, il prend la cuillère, et voilà, et ensuite il remet directement sa cuillère dans le pot de confiture ou dans la compote ou dans voilà, bah écoutez les copains, ça c'est le cluster assuré. On sait qu'il faut faire très attention. Moi quand je reçois, je prends sans arrêt les couverts, je les ramène, je les nettoie, je me lave les mains une quinzaine de fois, je mets mon masque et je mets du gel hydroalcoolique sur la table. Et voyez, en 2 ans, bien que je sois une personne ultra vulnérable, il n'y a jamais eu de problème si on fait avec intelligence les choses. Si on avait fait confiance à des petits élus locaux dévoués au peuple, il y en a. Si on avait fait confiance aux habitants et si on avait eu du débat scientifique sur qu'est-ce que c'est que la vaccination, comment ça marche, débat scientifique populaire, hein, avec tous les gens dans les communes, hein, au lieu de faire un grand débat où il y en a un qui cause pendant 4 heures et que tout le monde se la ferme, peut-être qu'on n'en serait pas là. Il s'agit de convaincre et il faut convaincre. Pour convaincre, il faut aussi que les vaccins ne soient pas du AstraZeneca. et ne soit pas une occasion de s'enrichir. Hein. Moderna en France, le PDG, il est passé de 1 milliard à 5 milliards là, en un an. Elle est pas belle la vie pour lui tout seul, hein, naturellement. Il faut pas compter qu'il vous les distribue. Hein. Le ruissellement, c'est d'abord pour ma poche et ma pomme. Voilà, je suis en colère de ce côté-là et j'en ferai une émission un petit peu plus joyeuse la prochaine fois. Et là, je voudrais dire en toile de fond, hein, vous avez vu, on est dans l'antichambre de l'enfer avec ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Alors là, c'est plutôt le refroidissement climatique, c'est plutôt le déluge avant le déluge. On arrive maintenant à une complète catastrophe climatique qui débute et on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Ah, ça y est, encore un truc qui nous scie le moral. C'est comme l'histoire de mes poupées gonflables de 10 ans d'âge avec 3 trous. Ah, il paraît que ça empêchait de manger des gens. Ben, ils n'ont pas écouté la radio pendant qu'ils mangent. Ils font comme moi, ils l'écoutent aux toilettes ou en faisant leur toilette ou aux toilettes, au WC, je veux dire, ou en faisant leur toilette ou en épluchant leurs légumes. Et la radio, c'est fait pour faire un bruit de fond, mais en même temps, ben voilà, on n'est pas obligé de l'écouter pendant qu'on déjeune. En tout cas, on apprend que le référendum sur le climat, alors que nous entrons dans une zone de grave danger pour l'existence même des humains, soyons joyeux, ou alors soyons, mais arrêtons de dire, il faut être positif, il faut d'abord regarder la réalité, puis on est positif si on fait une manif, si on récupère des terres agricoles pour faire des légumes, on est positif quand on agit, c'est ce qu'on appelle l'optimisme de la volonté, chez Antonio Gramsci, mon copain de marxiste italien, qui a été mis en taule et quasiment assassiné par Mussolini, ça lui plaisait pas du tout ce qu'il écrivait, il lui disait, il faut conjuguer le pessimisme de l'intelligence, c'est-à-dire, on analyse ce qui se passe, sans fake news, il n'y a pas besoin de fake news, c'est encore pire que les fake news, quand on regarde bien la réalité, et on regarde bien aussi qu'est-ce qu'on peut faire, et là on devient optimiste chaque fois qu'on empêche une grande surface de s'installer, qu'on récupère des terres agricoles, qu'on agrandit, vous avez écouté ces différentes émissions, qu'on fait une ferme collective, qu'on plante des arbres, et qu'on se préoccupe des plus fragiles d'entre nous, eh bien on est optimiste, tous les gens qui agissent sont relativement optimistes, hein. Là, dernièrement, en Méditerranée, il y a 179 qui se noyaient dans un bateau pourri pour rejoindre l'Europe. Eh ben voilà, ils ont été sauvés in extremis par le fameux bateau là qui fait le sauvetage en mer et qui a eu beaucoup de mal à réunir des crédits. Et que l'Europe forteresse verrouille à l'intérieur du privilège de ses blancs et surtout de ses riches blancs, on va dire, hein, c'est eux qui dominent tout, eh bien, quand vous avez récupéré 119 personnes en passe de se noyer, dont des enfants, dont des femmes allaitantes, excusez, mais franchement, ça vous fout le moral. Après, le problème, c'est qu'ils ont fait 4 demandes à 4 ports et qu'ils tournent en rond et ils n'ont plus rien à bouffer et que, pour l'instant, personne ne veut les accueillir. Bon, là, nouveau coup de pessimisme, mais comme quelqu'un va finir par les accueillir, nouveau coup d'optimisme. Voilà, c'est en agissant qu'on devient agisseur, c'est en formant qu'on devient formeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en agissant qu'on devient optimiste. Voilà. Alors, il n'y aura pas de référendum sur le climat. Ça peut être une bonne occasion d'avoir un beau débat, puisque je suis chaud, très chaud, comme le gilet jaune, et puis comme ceux qui ont porté cette idée depuis des années, d'un référendum d'initiative citoyenne. Là, c'était plutôt un référendum d'initiative gouvernementale. Pourquoi pas, quand il s'agit de questions aussi gravissimes que de voir que, voilà, si vous allez à l'Épin, vous avez un torrent, et maintenant il y a 3 torrents, ça dévale la montagne, il pleut sans arrêt. J'ai vraiment l'impression que le lac va monter jusque dans les périphéries des habitations, tellement il coule d'eau de tous les côtés. C'est un peu le déluge, et ben voilà. Et quand c'est le déluge chez nous, sachez que c'est la sécheresse prolongée. Je vais parler de Madagascar, mais aussi d'Haïti. À l'autre bout de la planète, c'est 7 ans sans eau, quoi. Donc les gens, ils sont en train de crever la dalle, hein, parce qu'il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à. Sans eau, vous ne faites pas d'agriculture, et avec trop d'eau, ça fait tout crever. Hein. Moi, j'ai 100-200 framboisiers, d'un seul coup, c'est tout tombé. Même pas eu le temps de les ramasser. Que les cassis. Voilà. Alors, les sénateurs, ils sont pas chauds, ils grimpent au rideau, Ils voulaient pas qu'on lutte contre le climat, mais agir. Voilà, ils voulaient pas garantir que on fasse quelque chose contre le climat et remplacer par favoriser. Enfin bon, voilà, le référendum, plouf plouf.
Someday the thrill is gone.
mercredi, un dernier, parce que les émissions, elles sont décalées de 15 jours, hein, vous m'excusez, hein, on peut pas faire, mais il faudra que je fasse un peu de direct. Malgré les milliards d'euros déversés par l'Union européenne, des centaines de milliards d'euros, les émissions dues à l'agriculture de l'Europe, elles n'ont pas diminué d'un mètre cube de CO2. C'est toujours l'agriculture industrielle, c'est toujours les élevages de poulets. Je vous en ai parlé la dernière fois, notamment en Biélorussie, des usines à poulets de 1 600 000 poulets. Hein. Il y a les bâtiments qui font 1 km de long. Derrière, il y a l'usine avec, on prend le poulet, il est entièrement, la tête est coupée automatiquement, les plumes sont enlevées par des machines, les pattes sont coupées, les viscères sont éviscérées. Tout ça, ça part dans des bacs qui font de la nourriture pour chiens. Tiens, je sors chez une amie qui a voulu m'inviter à son anniversaire. Mon amie, elle me dit, depuis que mon chien, j'avais plus rien donné à mon chien, il n'y a plus de croquettes, il pue de la gueule, mon chien. Il y a plein de chiens qui puent de la gueule, hein. Mais on dit tous qu'il va manger des choses innommables et que je ne peux pas nommer dans la nature. Sauf que non, il mange pas des trucs qui traînent dans la nature, c'est qu'il mange des pattes de poulet. Les bouts des pattes, hein. Il mange des becs de poulet, il mange des têtes de poulet, il mange des plumes de poulet, tout ça mélangé avec un tourteau quelconque, quelques restants d'abattoir plus ou moins moisis pour ne pas dire pire, tout ça des os broyés et ça fait une pâtée qui fait de la granulette, bien stérilisée, hein, quand même. Mais ça a juste un peu le goût et finalement ça rend malade les animaux. 14 millions d'animaux, c'est trop dans ce pays parce qu'ils bouffent plus que, 6-7 millions de gens crèvent la faim côté Sahel. Il y a peut-être besoin d'animaux de compagnie pour les personnes âgées, il y a peut-être besoin d'animaux de compagnie pour les enfants un peu seuls dont les mamans travaillent bien justement dans les métiers médicaux et médico-sociaux. Dans les gamins, il est tout seul, surtout dans les familles monoparentales. S'il a un petit chien ou un chat avec lui, c'est merveilleux, mais voir tous ces dizaines de milliers de clébards et de chats abandonnés au bord des autoroutes, là ça a recommencé. C'est quand même une horreur. Il faut arrêter de traiter le vivant comme des sacs de contreballes avec soi. Et donc, pas de référendum sur le climat, donc pas de grand débat sur le climat. Constat, c'est que, c'est pas moi qui vous le dis. Hein. Chaque fois, vous voyez, je n'ai aucune poursuite depuis que je fais des émissions de radio. C'est la Cour des comptes. Il y a une Cour des comptes européenne qui vient de faire le calcul. Alors, c'est très compliqué comme calcul. Hein. C'est combien on a de tracteurs, combien ça consomme, combien on a mis d'engrais, combien un kilo d'engrais fait de gaz pour être fabriqué, combien il en émet quand il est jeté au sol, les pesticides, enfin vous savez ce que c'est que l'agriculture industrielle, hein, c'est comme une usine à ciel ouvert, et vous mangez de la merde. Au final, dans les grandes surfaces, quand ça arrive, quand j'ai de la merde, hein, je vais être très précis, hein, vous mangez avec des additifs, vous mangez des Roundup, vous mangez des métaux lourds, vous mangez beaucoup d'antibiotiques, vous mangez des additifs colorants, vous mangez tout ce qu'on met dedans. Hein. Dans le pain, il y a 28 additifs. Ah, alors vous ne me croyez pas. Tiens, quelqu'un m'a dit, oh là, mais qu'est-ce que vous racontez là vous délirez, puis vous me coupez l'appétit. Allez, soyons sympas. Recette de la tarte aux cerises. La pâte, vous voulez que je vous donne la pâte? Mais c'est lié au climat, hein. Parce que tout ça, ça tue le climat en même temps que ça tue les êtres humains. Alors, je fais une petite incidente, ne nous fâchons pas. Je vais juste vous donner la recette de la tarte aux cerises. Il y a pour la farine, il faut des grains de blé et ils ont été enrobés d'un fongicide avant semis. Voilà. Parce que des fois, le semis, si on perdait un peu de... Hein, s'il y avait un rat au pied qui bouffait les grains, on lui met d'un fongicide. Donc plus personne s'attaque aux grains. Pendant sa culture, le blé a reçu à peu près 5 à 6 traitements de pesticides. Selon les années, en ce moment, là, il va falloir y aller aux antifongiques, hein, parce qu'avec la pluie, voilà. Un traitement aux hormones, donc les pesticides. Un traitement aux hormones. On met des hormones dans le sol pour raccourcir les tiges. Et oui, parce que non seulement c'est des blés hybrides courts, mais en plus on met des hormones pour raccourcir encore les tiges afin d'éviter que s'il y a un orage ou une grande pluie, il y ait ce qu'on appelle la verse du blé, c'est-à-dire que le blé se couche et après on perd le grain, il pourrit, et puis c'est dur à moissonner. Et puis voilà, on y va aux engrais. Hein. Les engrais, c'est simple, c'est 240 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium à l'hectare tout de même. Tout ça, ça a un coût en carbone pour le climat catastrophique. 240 kg d'azote, d'engrais azoté. Alors, ben pour l'azote, ça peut être ce fameux nitrate d'ammonium. Il y en a plein les ports, notamment de France, et quand vous mettez une allumette dedans, ou si vous mettez, par exemple, un peu de goudron, ou un produit, disons, un carburant, hein, ça c'est un comburant, parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dans la et ben ça explose. Voilà, port de Beyrouth, ça a explosé. Mais là, il y a des stocks en Alsace deux fois pire que ceux du port de Beyrouth. Si jamais ça pète, il y a des gens qui vont être mal. Hein. Voilà, c'est ça l'azote, hein. C'est les anciens explosifs de la guerre, des 14-18, qui ont été mis dans les champs. On ne savait pas quoi en faire, mais on a dit on les met dans les champs. L'azote, c'est bon pour le végétal, mais un azote naturel, pris dans l'air, comme par exemple les haricots. Hein, j'ai de splendides haricots à la maison, c'est simple, hein, le haricot, il prend l'azote de l'air, et avec les champignons de ses racines, ça migre dans la racine et il enrichit le sol en azote. Mettez du haricot, votre sol s'enrichit en azote. Donc conseil, mettez donc des patates le long de vos haricots. Vous verrez que les patates sont deux fois plus grosses quand vous les calez contre les haricots. D'ailleurs, nos maîtres dans cette affaire, c'est quand même les populations andines. Hein, il y a des milliers d'années, qui ont, je ne sais plus combien, 3000 variétés de patates. Eh bien, et je ne sais plus combien de variétés de maïs. Ce qu'elle faisait, c'est planter le maïs en premier. Hein, faites pas mon erreur, j'avais fait une fois, j'ai planté le maïs en même temps que le haricot. C'est une bêtise, il faut planter le maïs un mois avant. Quand le maïs commence à grandir, allons-y pour les haricots. Comme ça, le haricot grimpe après le maïs. Le maïs profite de l'azote du haricot. Pour éviter les grandes chaleurs, vous mettez de la courge au milieu. Et puis, dessous la courge, vous pouvez mettre de la salade, du persil, enfin tout ce qui va bien avec. Et vous avez de l'azote dans le sol grâce aux haricots, et votre maïs, bien sûr vieille variété, hein, pas le Mons machin truc, bon on n'a pas le rose gemme en France, mais vous avez des hybrides monstrueux qui montent à 4 mètres de haut et qui sont presque aussi dégueulasses que des OGM. Mais ça servira de nourriture aux porcs, aux vaches, et comme on y met beaucoup de Roundup, puisque vous regardez les rangs de maïs, il n'y a pas une herbe. C'est que le Roundup est composé de glyphosate, hein, un pesticide, c'est pas le pire. Hein. Maintenant, on met des trucs beaucoup pires. Avant, on mettait de l'atrazine, c'était catastrophique. D'ailleurs, c'est dans les eaux maintenant, hein, souterraines. Et ça vous détruit donc les mauvaises herbes, comme on dit, c'est-à-dire les concurrentes qui piquent un petit peu de nutriments à la terre et qui empêchent le rendement. Voilà, il faut du rendement, au mépris de la santé humaine et de la nature et au mépris du climat. Donc, pour faire du blé, hein, il faut 2 à 6 traitements de pesticides, enfin 2, c'est rarement 2, hein, c'est plutôt 5, 6, 7, et il faut 240 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium. Bientôt il n'y en a plus hein, de potassium, bientôt il n'y en a plus de phosphore, et voilà, à l'hectare. Le blé moissonné après récolte, les grains sont fumigés. Hein, parce que dans les grands silos, puisqu'on fait en grand, on fait tout en grand avec le capitalisme, pour que ce soit rentable, il faut en faire par millions de tonnes. Hein. Avant, on faisait de la petite exploitation, c'était de qualité, c'était bio, c'était propre, voilà. Mais bon, maintenant, il faut des silos qui reçoivent des millions de tonnes de grains. Et pour qu'être dans les grains et dans les silos, il ne faut pas que le blé il fermente, quoi, hein, qu'il rancisse, quoi. Donc on les fumige. Hein, voilà. Et on les fumige à quoi dans le silo ? Bah, au tétrachlorure de carbone. Tétrachlorure de carbone. Bah, c'est tout des cancérigènes, ça. Bisulfite de carbone. Puis on les arrose en haut, hein, au fur et à mesure qu'on met le grain, au chloropyriphosméthyl. Pyriphosméthyl. Oui, c'est très bien ça. Tous les gars qui travaillent dans ces silos, ils ont des gros soucis avec des cancers, des lymphomes, voilà, prostate, là, en général, ils font pas long feu, ils se ramassent un truc à la prostate à 50 ans. On s'en fout parce qu'ils ont quitté ce boulot qui leur plaisait pas pour un autre. Et très dur de faire valoir l'accident professionnel. Alors ensuite, on moule le grain. Alors, dans mon temps, avec mon père, on allait au moulin de Thirieux, hein, il y avait un petit lac devant, tourné à l'eau, c'était écolo en diable. Dans le lac Pétard, il y avait des tanges, des truites, c'était une vraie merveille pour moi, j'allais en ramasser, je sais faire. Si vous voulez m'expliquer comment les ramasser, mais c'est interdit à la main. Hein. Bon, ben non, j'en ramasse plus. Hein. Alors, pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de nitrosyle, hein, la farine. Elle reçoit du chlorure de nitrosyle, puis de l'acide ascorbique, c'est la vitamine C, mais de synthèse, hein, de la farine de fèves, histoire de mettre encore plus de comment ça s'appelle, de... Ah, bon, le nom m'échappe, et du gluten et de l'amylase. On rajoute du gluten au gluten, hein, c'est déjà des blés qui sont pleins de gluten, des blés courts, voilà, ça vous bouche l'intestin, mais c'est pas grave, et de l'amylase. L'amylase, ça, c'est pour la digestibilité, hein. Ensuite, il faut faire lever la pâte. La poudre levante est traitée au silicate de calcium. Voilà, on rajoute du silicate de calcium à la pâte levante, hein, dans le pétrin. Et l'amidon est blanchi au permanganate de potasse. Alors ça, je vous préviens, hein, si vous buvez un jour un verre de permanganate de potasse, vous allez direct à l'hôpital et vous avez l'estomac qui est brûlé. Pas de pâte sans corps gras. Donc, un peu de corps gras. Hein, voilà, et donc un antioxydant pour éviter le rancissement du corps gras, comme l'hydroxytoluène de butyl. Voilà, parce que voilà, ça va empêcher que le corps gras y rancisse. Et puis on met un peu de lécithine, hein, c'est pour l'émulsion, ça fait une pâte plus légère. La lécithine, il y en a partout, ça n'a pas l'air d'être bien dramatique, à ma connaissance. Histoire de la crème, la crème sur laquelle vont reposer les cerises, puisque je vous parle de la recette de la tarte aux cerises. Alors, si vous êtes en train d'en manger, ça y est, vous allez me dire, mais moi, je suis joyeux à vous raconter ça. Parce que si vous savez ça, peut-être que vous êtes moins aveugle. Si vous êtes moins aveugle, peut-être que vous risquez d'être moins docile. Hein, et puis que vous demanderez d'où tout ça, ça vient. Hein. Vous ne ferez pas comme ceux qui, dans une certaine boulangerie du coin, achètent des gâteaux à 4,50 €, alors qu'ils sont produits surgelés, arrivés en camion à 5-6 heures du matin. Ils sont à dégeler dans la vitrine. Et ça revient à 30-40 centimes le gâteau au boulanger. Et pas étonnant qu'il ait racheté une, deux, trois boulangeries. Parce qu'à faire ce trafic, bah, c'est ce que font 95% des boulangers. Hein. C'est des boulangers artisanaux. Hein. Ils sont dans nos villages. Mais bah oui, et bah, la multinationale du pognon et de l'agroalimentaire vous fait des gâteaux avec la farine dont je viens de vous parler, mais elle les livre dans des usines, elle les fabrique dans des usines où c'est surgelé à tour de bras. Et par exemple, il y en a une, je crois que c'est dans l'Est de la France, qui fait plus d'un million d'éclairs au chocolat automatique en une heure. Entendez bien ? Voilà. Pas en une heure, en une journée, excusez. Voilà. C'est merveilleux ça, non ? Bah, ça fait des éclairs au chocolat quand vous les mangez, ils sont pas si mauvais. Mais ce qu'il faut, c'est pas le goût. Ce qu'il faut, souvent, c'est très bon. Hein. Vous avez des yaourts Danone, ils sont excellents. Mais même plus que bons, parfois même meilleurs que des yaourts, disons, bio. Mais pourquoi ils sont bons ? Parce qu'on a mis 30 additifs à force de mettre des émulsifiants, de mettre des épaississants, de mettre des exhausteurs de goût, de mettre du sucre, enfin voilà, et ça vous explose dans la bouche, c'est très bon. Mais après, vous avez un drôle d'arrière-petit goût là de chimie. Et la crème, donc, parce que les cerises, il faut les mettre sur la pâte, et voilà, la crème sur la pâte et les cerises sur la crème. Eh bien, ça se fait avec des œufs, du lait et même de l'huile. Mais les œufs proviennent d'un élevage industriel où les poules sont nourries avec des granulés contenant des antioxydants. Alors, si vous connaissez, hein, E300 et E311. Alors, si vous ne connaissez pas, vous tapez Internet. Qu'est-ce qu'il y a dans E300, E311? Il y en a partout. Des arômes. Hein, les œufs, on leur met des arômes. Et puis on leur met des émulsifiants. On a déjà parlé de l'émulsifiant, hein, c'est la lécithine. Voilà. Bon, mais dans les émulsifiants pour les œufs, on met plutôt de l'alginate de calcium. Puis les conservateurs, on met de l'acide formique. C'est l'acide des fourmis, hein, et fourmis formiques. C'est ce qui pue quand les souris, vous mettez les doigts dans un nid de fourmis. Puis les colorants, alors là, allons-y. Hein, il faut que le jaune soit bien jaune, même s'il est tout pâle. On met de la capsanthéine, agent liant, de la lignosulfate, et enfin, de la ligno, donc ça c'est origine bois, quoi. Et enfin, des appétants. Des appétants, c'est pour exciter les papilles, hein. Donc, vous pouvez exciter vos papilles en regardant, par exemple, en goûtant un petit cornichon que vous avez fabriqué. Hein. Mais bon, les appétants, maintenant, c'est du chimique, hein, c'est le glutamate de sodium. Enfin qu'on puisse avaler tout ça. Hein, il faut de l'appétence pour avaler tout ça. Bien, il y a aussi des antibiotiques, parce que, bien entendu, que, hein, on ne fait pas de blé sans antibiotiques, parce qu'il faut protéger le bétail. À qui on va donner le blé ? Donc, pour que le bétail ne meure pas, vu que le bétail, comme les cochons, c'est des batteries de 6 000 maintenant, en Pologne, 8 000 en Allemagne, 4 000 en Bretagne, en France, 5 000. Donc, il ne faut pas qu'ils crèvent, parce qu'il y en a un qui prend la maladie et la mort. Vous vous rendez compte, le pauvre gars qui a 6 000 cochons à l'engraisse, eh ben, il est mort. Et puis, il y a des anticoccidiens, hein, voilà. Les œufs avant séchage reçoivent des émulsifiants, des agents actifs de surface, de l'acide cholique et un enzyme pour aider à retirer le sucre du blanc. J'ai pas fini, hein, votre gâteau, il est pas fini, là. Le lait provient d'un élevage industriel où les vaches reçoivent une alimentation riche en produits chimiques, c'est ce que je vous disais. Alors, pour les antibiotiques, c'est le flavophospholipol. Le flavophospholipol, c'est le F712. Ben ça, vous ne le verrez pas parce qu'on en a très peu dans la consommation humaine. Ça va, ça, vous le trouvez chez les vétérinaires. Ou le monansisodium, le F714, juste après. Ou alors, bien sûr, des antioxydants pour le lait. L'ascorbate de sodium, on a déjà parlé. L'alpha-tocophérol de synthèse, le F307. Le butylhydroxtoluène, le F321. Et puis l'éthoxyquine, donc on a déjà parlé, le E324. On met des émulsifiants aussi, le lait, il faut que ce soit émulsifié, donc alginate de propylène, hein, glucol, le F405, du polyéthylène glycol, bah, ça c'est hyper répandu, c'est le 496, puis des conservateurs, parce qu'il faut que ça se conserve longtemps, qu'en fait l'agriculture industrielle, que les fermes sont au bout du monde, que vous mettez ça dans des silos à l'autre bout encore, que vous transportez par des bateaux géants qu'on appelle les porte-containers d'1,5 million de tonnes, eh bien, ça met quand même du temps à traverser le Pacifique. Et puis ensuite, il faut le remettre dans les silos au Havre. Il faut que ça se conserve, qu'on les aère, qu'on mette des produits pour que le grain ne pourrisse pas. Parce que si vous avez 1 million de tonnes de grain qui pourrit, vous êtes pas bien, quoi. Vous voyez ? Tout est fait en grand, ça s'appelle l'industrie agroalimentaire. Et puis on met des composés azotés chimiques, donc de l'urée, ouais, c'est pas ragoûtant, mais de l'urée, hein, c'est le principal composant de l'urine, F801, mais c'est de l'urée de synthèse, hein, c'est pas de l'urine, il ne faut pas exagérer. Ou du diurée d'eau, alors je ne sais même pas ce que c'est, hein, du diurée d'eau isobutane. Hein, sachant que moi j'ai fait quand même un peu la fac des sciences en physique chimie à Grenoble avant de faire une licence de lettres, de philo, et ensuite de me reconvertir dans les sciences de l'éducation. L'agent liant, c'est du stéarate de sodium, on l'a déjà dit, colorant du F131 ou F142, et enfin des appétants pour que les vaches puissent manger tout ça. Et oui, parce que dans les tourteaux, ce qu'il a oublié de dire, c'est que pour que les vaches mangent tout ça et non pas que du foin ou de l'herbe, et que il y a ces produits chimiques, ces tourteaux, des vaches, c'est des tourteaux, il en vient 4,5 millions de tonnes chaque année d'Argentine, du Brésil pour l'essentiel et un peu des États-Unis qui est plus cher. C'est ce qui reste après la pression des grains de soja cultivé avec en OGM et cultivé bien sûr avec du Roundup, puisque l'OGM était fait pour pouvoir faire que vous tuez les herbes sauvages sans tuer la plante, le maïs ou le soja. C'est-à-dire vous pouvez arroser un maximum, grâce à l'OGM, il y a un gène résistant à l'agression chimique, ce qui fait que votre maïs est beau comme tout, mais il n'y a pas un brin d'herbe au pied, votre colza est beau comme tout, il n'y a pas un brin d'herbe, et vos grains de soja, ils sont beaux comme tout, il n'y a pas d'herbe dedans. Du coup, facile à moissonner, impeccable, pas de saloperie, nickel chrome, mais bien sûr, c'est ça que les vaches vont manger en France, quand elles sont pas des petits élevages bio ou des petits élevages comme avant, on a 30 vaches, il faut 2 hectares par vache, hein. Bon, en gros, 1,5 hectare, 2 hectares. Donc voilà, je salue Monsieur Belmain, dernier paysan de Lépin-le-Lac. Très sympa. Il a 35 vaches, il a 60 hectares. C'est ça qu'il faut. Et là, la vache, elle mange pas des tourteaux. Voilà. Et là, c'est du bon. C'est du bon à condition que vous ne mettiez pas des produits chimiques pour que l'herbe, elle pousse, puisqu'on met beaucoup d'engrais maintenant dans les prés. Voilà pourquoi vous n'avez plus de champignons dans le coin. Parce que vous n'avez plus de champignons, parce qu'on a mis des engrais. Les engrais, il y a des métaux lourds, des tas de saletés, et qui fait que l'herbe, elle est magnifique, ça se voit bien, les prés artificiels, l'herbe est luisante, elle est presque une couleur bleu-vert, voilà, c'est facile à reconnaître, puis quand vous y allez, tintin, pain et champignons. Voilà, et ben c'est ça que mangent les vaches, des tourteaux, et puis tout ce que je vous ai dit. Enfin, les huiles, parce qu'on met un peu d'huile hein, dans la pâte, quant à elles, elles sont extraites par des solvants. hein, pour que ça aille plus vite. Donc on met un peu d'acétone. Parce que vous ne pouvez pas seulement presser. Si vous ne faites que presser, vous perdez de l'huile. Si vous rajoutez de l'acétone, vous voyez ce que c'est l'acétone, hein, ça sert à nettoyer les surfaces qui sont complètement moches comme tout, métalliques. Vous mettez un coup d'acétone, ça vous ramasse le gras. Donc l'acétone rince le gras qui reste dans les tourteaux. Et puis vous les raffinez par l'action de l'acide sulfurique. Voilà, vous les raffinez par l'action de l'acide sulfurique. Ah oui, il y a de l'acide sulfurique dans la tarte à la cerise. Puis après, vous lavez à chaud. Hein, et pour neutraliser cet acide, bah, vous mettez un peu de la lessive de soude. Voilà, et puis tout ça, c'est décoloré. Ça fait une couleur bizarre, c'est décoloré au bioxyde de chlore. Le chlore, vous savez, c'est un bon décolorant, hein, que vous faites du papier blanc. C'est du papier au chlore, hein, quand vous avez du sopalin, il est au chlore. Vous mettez, par exemple, des petites graines à germer sur le sopalin, elles crèvent parce qu'il y a du chlore dedans. Ou alors, vous mettez du bichromate de potassium, c'est peut-être un peu moins dur. Et puis, vous désodorisez à 160 degrés avec du chlorure de zinc. Oui, pour enlever les odeurs, c'est pour très bien tout ça. On passe à 160 degrés à l'autoclave et un peu de chlorure de zinc. Après, c'est nickel, ça sent nickel ou rien. Voilà. Alors, la crème de la tarte, c'est une fois fabriquée, reçoit des anneaux, mais voilà, et voilà. Et les cerises ont reçu pendant la saison entre 10 et 40 traitements de pesticides, selon les années. Donc, les cerises sont décolorées à l'anhydride sulfureux, puis recolorées de façon uniforme, parce que ça la fout mal, ces cerises n'ont pas les mêmes couleurs, il y a des noirs, des rouges. On les recolore toutes, bien noires, à l'acide carminique, hein, le carmin, quoi, ou à l'érythrosine. Elles sont plongées dans une saumure contenant du sulfate d'aluminium et à la sortie reçoivent un conservateur, le sorbate de potassium. Elles sont enfin induites d'un sucre qui provient de betteraves qui, comme les blés, ont reçu leur bonne dose d'engrais et de Roundup. Le sucre est extrait par défécation à la chaux. On dit défécation à la chaux. Et à l'anhydride sulfureux, puis décoloré au sulfate. Bon, voilà, je vous en ai peut-être un peu dit beaucoup, mais c'est la stricte réalité. Cette recette a été faite par Marie-Monique Robin, hein, dont le papa est paysan dans la Beauce, et qui a écrit des choses intéressantes sur l'agriculture. Voilà. Le parfum artificiel de la cerise, ah ben voilà, il se compose des molécules synthétiques suivantes. Acétate d'éthyle, acétyl méthyl carbino, butyrate d'isoamylyl, cabroate d'éthyle, caprylate d'isomyl, et puis caprate d'éthyle, butyrate de terpényl, géraniol, butyrate de géranyl, acétate d'éthyle, bon, ça on a déjà entendu parler, heptanoate d'éthyle, aldéhyde benzoïque, aldéhyde toluique, vanilline, ça c'est bon la vanilline, essence artificielle d'amande amère, SAP, essence artificielle de girofle bourbon, essence artificielle de cannelle ceylan, essence de lie de vin. Voilà comment vous faites un bon goût à vos cerises, hein, la tarte aux cerises, tout ça congelé, décongelé.
Nous en serons au temps des cerises, et guérossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en. Quand quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir.
Voilà. Eh ben, bien, bonjour la Sarthe aux cerises. Alors pourquoi je vous ai raconté ça? C'est parce que le réchauffement, c'est une catastrophe, que l'agriculture industrielle et l'agroalimentaire, voilà. Et puis que jeudi, on apprend qu'un rapport du GIEC qui doit paraître en février prochain, eh ben, a fuité, vous vous souvenez, et ils ont dit que là, on entrait dans l'enfer, quoi. C'était de plus en plus alarmiste. Alors, ces 2500 chercheurs, hein, payés par l'ONU, ils sont payés par les labos, hein, ils sont pas payés par les États. Ils sont indépendants, payés par l'ONU. Et ben voilà, ils disent que les pénuries d'eau vont être énormes. Alors pour le moment, nous on a rechargé nos nappes ici, on s'en fout. Mais il y en a d'autres où il n'y a pas plus. Et ben eux, ils se font du souci. Et puis en Allemagne, vous avez eu, hein, il y a eu 40 morts, un village quasiment, un bon part de village qui est parti dans le fleuve. Même chez nous, hein, quand ça arrive dans le sud, on se fait moins de soucis. Hein. Il paraît qu'on est tous frères, mais enfin il y en a qui sont plus frères que d'autres, disait Coluche. Hein. Plus égaux que d'autres, disait Coluche. Voilà. Et vendredi, donc, on apprend que la barrière de local de corail, c'est la plus grande, on peut dire, structure vivante de la Terre, hein, sur des milliers de kilomètres. Et ça abrite les poissons, c'est incroyable pour la biodiversité, ça filtre l'eau des océans, enfin. Eh ben, elle est tellement en danger que l'UNESCO veut la classer comme patrimoine en danger ou site en danger. L'Australie s'y oppose. L'Australie, c'est le pire pays, consomme que du charbon. C'est une émanation de l'Angleterre. C'est un pays ultra-libéral. Enfin bon, bref, j'ai pas une grande estime pour ce pays. Hein. D'ailleurs, leur forêt brûle. Ben, ils ont planté de l'eucalyptus. Faut pas croire que ça brûle seulement parce que ça brûle à cause de la chaleur. Ça brûle parce qu'on a voulu faire des pâtures immenses. On a voulu faire du pognon avec le bois. Et qu'est-ce qui pousse le plus vite? Eh ben, celui dont je viens de vous parler. Là, qui pousse en 17 ans, hein, voilà, et puis après on s'étonne que tout ça, ça parte en fumée. Ben oui, mais écoutez les gars, vous avez désolé les sols, vous les avez asséchés, vous les avez plantés d'eucalyptus, vous avez fait pâturer des millions de vaches sur quelques kilomètres carrés, et puis après vous étonnez, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien pour retenir le sol, pour retenir l'humidité de l'air, voilà, s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà, on apprend ça, et puis on apprend voilà, que Onfray, alors moi j'aime pas du tout Onfray, vous fréquentez peut-être Onfray, j'y reviendrai. Alors Onfray, lui, il vient de créer sa revue, Le Front Populaire. Ben, ça, c'est joli, ça, c'est sympa, hein, ça fait peuple. Il est fils du peuple, lui. Mais bon, je n'ai pas apprécié énormément ses bouquins, je sais pas vous. Hein. Bon, bref, un collègue hein, qui a fait philo comme moi, écrégé de philo, université populaire de Caen, il a fait fabriquer, le Canard Enchaîné l'avait dénoncé, une salle de 1000 places, rien que pour lui, quasiment, parce que c'était plein à craquer. Parce que quand il parle des philosophes grecs, ah, ça fait saliver, vu qu'on a été privé dans nos études ou qu'on a tout oublié. Puis après, il envoie ses salades, et ben écoutez, c'est terrible, parce que c'est de la daube. Voilà, il dit que l'histoire du réchauffement repose sur des modèles climatiques qui ne sont pas fiables, qu'il y a un consensus vaguement scientifique qui fonctionne sur de l'intimidation. Il y en a qui auraient pris le pouvoir pour nous obliger à penser qu'il y avait une catastrophe climatique, donc il pleut pas, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas eu de dôme de chaleur au Canada, il n'y a pas eu 1000 morts, il n'y a pas eu une ville détruite à 85% par les flammes, il n'y a pas eu 12 millions d'hectares brûlés en... Eh bien justement, en Australie, il n'y en a pas eu autant dans la taïga. Il n'y a pas eu les blés russes il y a 3 ans qui ont brûlé sur des millions d'hectares. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas du tout de tornades de plus en plus violentes. Non. Il n'y a pas l'eau de mer qui remonte au point que la France est obligée maintenant de racheter les baraques qui sont en bande. Non. C'est un peu, si vous voulez, un fake news, tout ça. Comme il dit, bien avant l'apparition des hommes, il y a eu une alternance de cycles de refroidissement et de réchauffement. Voyons, on est dans un cycle de réchauffement, mais ça va se refroidir. Vous faites aucun souci. D'ailleurs, chez nous ici, là, ça refroidit. Hein. Ça refroidit en attendant les prochaines canicules. Hein. Et comme dit le GIEC, la France ne sera pas épargnée par des dômes de chaleur de 50 degrés. Moi, je me faisais prendre pour un rigolo à Pont-de-Boisin après ma première conférence là au cinéma Le Diamant, mois de novembre 2016, juste après mon arrivée. M'a traité de rigolo parce que je disais, vous verrez, à Pont-de-Boisin, vous aurez vos semelles, seront coincées dans le goudron. Vous serez bien malin, vous serez obligé de quitter vos godasses parce que vous ne pourrez plus marcher. Ben voilà, vous n'aurez peut-être sur Pont-de-Boisin ou sur la Chartreuse un dôme de chaleur de 50 degrés, c'est ce que je disais à Saint-Franc, à la Berthe, à la petite soirée là sur Picoy off Cuba. Dire, voilà, on risque d'avoir... Mais si on a 50 degrés sur la Chartreuse, Pont-de-Boisin et tous les environs, là, ben, qu'est-ce qui va se passer? La forêt va flamber. Mais qu'est-ce qui va se passer? Car vous regardez Saint-Laurent, c'est noyé dans les bois. Ben, tout ce qui est entouré de bois, ça va cramer. Les toitures, c'est fait avec du bois. Tout ça, ça va cramer. Et alors, ça va arriver où? Ben, on s'en fout. Ça arrive au Canada. Ça arrivera jamais, c'est nous. Eh ben si, c'est ce que dit le GIEC. Ça va arriver en France. Et ça va être dramatique, parce que vous avez eu 1000 morts hein, dans une petite ville de rien du tout, de la chaleur et puis des incendies. Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire que c'est la fin de l'émission. Ben, j'essaierai de développer dans la prochaine émission. Quelqu'un m'a posé la question, bien, mais comment vous réfléchissez, pourquoi vous parlez toujours de faire une analyse systémique? Eh bien, dans la prochaine émission, je vais vous parler de l'analyse systémique, de la méthodologie où on essaye de comprendre les choses par leur histoire. Hein. Vous avez vu que dans ma lettre à Marie, j'avais... mais Marie, elle a écouté, hein, elle n'est pas fâchée. Hein. Quelqu'un m'a posé la question, elle a dû être fâchée. Mais non, elle n'est pas fâchée du tout, au contraire, elle vient d'adhérer à l'association. Comme quoi, il faut discuter avec les gens. Elle vient d'adhérer à mon association et pas un petit chèque, hein, 30 euros, c'est sympa. Et donc là, salut, Marie, elle me disait, mais non, c'est nous, les pauvres cons, on achète des bagnoles, des SUV, on consomme à Lidl comme des malades. Non, on n'achète pas des bagnoles, on a fait tout pour la bagnole. Parce que souvent, on se moque de nous. Mais non, c'est Ford qui a fait détruire 47 000 kilomètres de... 42 000 km de tramway aux États-Unis pour faire rouler ces bagnoles. Los Angeles, on pouvait très bien les faire circuler d'un bout à l'autre de la ville, même dans les petits quartiers, partout il y avait des tramways électriques, alimentés par un barrage, il n'y avait pas plus écolo. C'était pas plus sympa, tu montes, tu discutes, moi je prends le train pour aller à Lyon, je discute, je suis content, je rencontre toujours des gens sympas. J'ai rencontré un groupe de musiciens là, bon bref. Eh ben voilà, j'ai fini et donc je voulais juste vous dire que si on fait par l'histoire, la méthodologie, on comprend pourquoi on a des bagnoles aujourd'hui et c'est pas arrivé parce qu'on a voulu des bagnoles, c'est qu'à un moment donné, la bagnole, si vous êtes dans la zone rurale, vous pouvez pas vous en passer, mais c'est pas de votre faute, c'est de la faute du système. Bien le bonjour chez vous et puis appelez-moi, là je vais arrêter les émissions pendant un petit moment. Donc 06 75 80 05 119, c'est pas bien difficile, un petit SMS, vous avez dit une connerie, vous avez dit que Ford avait fait arracher, Ford a corrompu les élus, non monsieur, mais c'est pas bien vrai ce que vous avez dit, dans la tarte aux cerises maintenant il n'y a plus d'acétylamine, ah bon, ben d'accord, j'en prends acte, ah non, vous avez dit que sur le climat, ben il n'y aura pas de référendum, ben vous voyez, là il y a eu une telle manif gigantesque en France qu'il y aura peut-être un référendum, mais cette fois-ci d'initiative citoyenne, ah, « Ah, mais monsieur, vous avez dit qu'il fallait se faire vacciner. » Non, j'ai pas dit qu'il fallait se faire vacciner. J'ai pas dit qu'il fallait pas se faire vacciner. J'ai dit qu'il fallait faire attention aux droits de l'homme et que la discrimination qui consistera à licencier des soignants parce qu'ils sont pas vaccinés est une ignominie. C'est tout ce que j'ai dit. Moi-même, je ne suis pas anti-vax, mais je suis un esprit critique. J'aime voir regarder les effets à moyen terme avant de me prononcer avec un esprit critique. Et voilà la prochaine émission, méthodologie de l'esprit critique. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos remarques, y compris un peu acides. Hein, j'en ai reçu une, c'est « Oh là là, on était en train de déjeuner, vos poupées gonflables à 10 ans d'âge avec une poupée dans les bras pour les hommes seuls, ça nous a dégoûté. » Ben oui, mais non, mais c'est la réalité du capitalisme. Amazon, qui est un symbole même du capitalisme, c'est qu'ils vendent des poupées gonflables, j'y suis pour rien. Je le raconte pour dire l'ignominie de ce système. Bien le bonjour.
C'était la saine cause pour un bien commun et un monde vivable.